le cuit en bouillie, comme un café foutu. Dans ma tête, c'est tout cuit. Dans ma tête, c'est tout fou. Is God a dog?
À toutes et à tous, il est 17h, vous écoutez Au fil des pages. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Libertaire et nous débutons une émission spécialement enregistrée pour affirmer les luttes du peuple, du monde ouvrier, dans des chants, des chansons populaires à travers les ans. Commençons par la plus célèbre. Ne l'oublions jamais dans les moments de doute et d'angoisse. Celui qui a écrit les mots qui vont suivre était caché dans un grenier ou dans une cave en juin 1871. Et oui, après la semaine sanglante. Des milliers de Parisiens et de Parisiennes ont été fusillés, massacrés. Dans ces conditions, que devient l'idéal? Il faisait sans doute froid dans son cœur, le cœur d'Eugène Potier, car c'est de lui qu'il s'agit. Il parviendra pourtant à coucher sur le papier l'un des chants emblématiques du mouvement ouvrier qui se situe au niveau de la Marseillaise, le chant révolutionnaire de la Grande Révolution et des mouvements du XIXe siècle dans l'Europe et le monde, ainsi que de Bella Ciao. Il s'agit de l'Internationale, interprété dans tous ses couplets par le regretté Marc Augeret.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur en de gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Comprimer la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. Apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu en décrétant qu'on le lui rende. monde, le peuple ne veut que son dû. Nous saoulait de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, logera ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.
Pourquoi cette émission ? Eh bien, tout simplement parce que nos amis des éditions du Détour nous ont proposé un livre intitulé « En lutte, carnet de chant », qu'évidemment vous pouvez retrouver à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. Ce livre regroupe des chants historiques et d'autres plus récents. Ils ont en commun d'être des chants de lutte. Et en ces temps où Internet n'existait pas, ni les portables, où la mobilisation se traduisait par l'enthousiasme, on chantait. Et je voudrais consacrer un temps important de notre émission à l'international. Qui ne la connaît pas ? Qui ne l'a pas chantée dans les manifestations avec conviction et chaleur ? La référence à la Commune est clairement énoncée dans la dédicace au citoyen Gustave Lefrançais, membre de la Commune, un socialiste anarchiste, tout comme Eugène Potier. Alors, reprenons le refrain et les couplets. Le refrain, c'est un appel à la lutte. C'est la lutte finale, vous avez entendu, qui doit mettre en place une vie meilleure pour tout le genre humain. C'est un appel à l'unité des travailleurs. Ceux qui ont connu la Commune ont tous mesuré et dénoncé les divisions au sein des assemblées, même lorsque les Versaillais pénètrent dans Paris. Il faut relire les pages de Lissagaray, Histoire de la Commune de Paris de 1871, paru aux éditions de la Découverte, ou le livre de Jules Andrieux, Notes pour servir à l'histoire de la Commune de Paris, sorti chez Libertalia. Il faut noter, d'ailleurs, que ce n'est pas un appel à la violence. Il y a comme une forme d'idéal. Ça, c'est le refrain. Le premier couplet, lui, aborde la question des damnés de la terre. C'est nous les damnés de la terre. Voilà qui fait penser au livre de Frantz Fanon, un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste, Les forçats de la faim. La formule fait référence à la faim dans les quartiers populaires. Les échauffourées étaient nombreuses. Les pillages de boulangeries aussi. D'ailleurs, vous vous rappelez que Louise Michel sera arrêtée dans de telles conditions en 1893. Un appel au regroupement encore et à la mobilisation de la foule esclave, le monde va changer de base. Cela fait écho à l'une des thèses de Proudhon, selon laquelle il faut passer du stade de la révolte, qui détruit sans construire, à celui de la révolution, qui change une société du tout au tout. C'est le livre « Qu'est-ce que la propriété ?» La propriété, c'est le vol, vous vous rappelez. « Nous ne sommes rien, soyons tout », souligne la rupture entre la République, qui a tiré sur la foule des ouvriers en 1848, en janvier 71, évidemment en mai 1871, et il fait référence aussi à la classe ouvrière. Il fait écho à la formule de Sieyès sur le tiers-État. En fait, c'est une référence à la Révolution de 1789 pour montrer que le travail n'est pas achevé. Le deuxième couplet est probablement celui qui traduit l'esprit anarchiste. Les grands théoriciens de l'anarchisme auraient pu l'écrire. « Ni Dieu ni maître ». Ni César, ni Dieu, ni César, la formule de Blanqui, reprise par les anards, eh bien, on le retrouve clairement, c'est le refus d'un chef, d'une autorité, malgré de nombreux compagnons libertaires de renom qui ont construit l'idéal libertaire. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Mais n'est-ce pas la formule des statuts de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Une démarche reprise dans l'anarcho-syndicalisme et les bourses du travail de Fernand Pelloutier, sans oublier la charte d'Amiens. Décrétons le salut commun, c'est un appel encore une fois à l'union et au travail en commun. Je crois que l'expérience de la Commune a tellement pesé sur Pottier qu'il en parle à chaque couplet. Le voleur rende gorge. La formule est forte. Rappelons-nous le pamphlet de Proudhon dont la phrase terrorisa les possédants. Il faut tirer l'esprit du cachot. C'est un clin d'œil aux lumières, à la raison, à l'éducation populaire, aux écoles ouvrières. Et alors que le monde ouvrier est blessé profondément par la répression, Pottier lance un nouvel appel à la mobilisation. Le troisième couplet, lui, aborde la question de l'État, un État qui opprime, un État qui est l'instrument de la classe dominante. La bourgeoisie, avec ses forces coercitives, l'armée, la police, les tribunaux, la célèbre violence légale de Weber. La loi n'est pas juste, l'impôt non plus. Les droits du pauvre sont bafoués, ce qui montre les limites de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est un appel à l'autre déclaration des droits de l'homme, celle de 1793. Et puis, vous avez une formule que nous connaissons bien, « pas de devoir sans droit ». Eh bien, cela fait référence aux revendications, là aussi, de l'AIT, dès 1868, et le terme « les égaux » fait référence au manifeste des égaux de Gracchus Babeuf, et de Sylvain Maréchal, dont nous parlerons sans doute dans une prochaine émission. Le quatrième couplet fait référence au roi de la mine et du rail. Ce sont les capitalistes de la révolution industrielle. Ça fait référence à Germinal. Enfin, plus tard, Germinal évidemment est écrit plus tard. Le cinquième couplet, lui, est nettement antimilitariste et va créer beaucoup de débats au sein de la gauche. Ce couplet, effectivement, les travailleurs ne doivent pas se faire la guerre. Ce sera le grand débat de 1914. Et je renvoie à cet effet à un autre livre, le livre de Guillaume d'Avranches, « Trop jeune pour mourir », sur le mouvement ouvrier et le pacifisme, qui est sorti chez Libertalia en 2014. Nos balles pour nos généraux, ça fait tout simplement penser au général Galifet, le massacreur de la Commune, et qui se retrouvera, et d'ailleurs ministre, dans un gouvernement de la République. Pensons à l'utilisation de l'armée qui rentre dans Paris et qui tire sur la foule. Nous sommes en 1871. Pensons aussi à Fourmis. Pensons à toutes les répressions des manifestations ouvrières qui étaient... où l'on faisait appel à l'armée. Sixième paragraphe, ouvriers, paysans, c'est l'appel, là aussi, à l'unité du monde du travail, du monde de la production, la faucille et le marteau, la valorisation du travail, pas d'oisif, les vautours, ah ben là, c'est un, les vautours, c'est un clin d'œil à Monsieur Vautour. Monsieur Vautour, bah oui, ainsi appelait-on les propriétaires qui voulaient leurs termes et expulsaient les familles. Il y a un ressentiment de surexploitation dans le monde ouvrier. Mais, messianisme oblige, le soleil brillera toujours et cette formule servira de base pour quantité d'affiches, de films, de poèmes et d'autres chansons révolutionnaires. Et oui, Jean-Baptiste Clément finissait... sa chanson sur la semaine sanglante avec les mauvais jours finiront et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Oui, et Potier, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Donc voilà un chant qui est fondamental et qui doit se faire, qui fait écho à un autre texte, à d'autres textes, et comme je l'ai souvent dit en différents lieux, la grande révolution, pour reprendre la formule de Pierre Kropotkin, et la Commune de Paris se tendent la main par-dessus le XIXe siècle. Les communards ne se lèvent pas au nom de l'international, et oui, elle n'existe pas, n'oubliez pas, elle est écrite en juin 1871, mais leurs accents de révolte et de justice sociale sont ceux de la Carmagnole, et du célèbre « Ça ira » interprété par la merveilleuse Édith Piaf. Alors, commençons par « La Carmagnole ». Alors, je précise dans la chanson que Madame Veto et Monsieur Veto, il s'agit de la reine et du roi qui refuse toute évolution du pays. Oui, la Révolution française est à l'origine des changements politiques de fond dans notre pays, en Europe. La Carmagnole, tout d'abord.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Pas Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
« Écoutons maintenant Édith Piaf dans « Ça ira ».
Ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Alors, franchement, Piaf, levant le poing en haut des grilles de Versailles et en chantant le « Ça ira », dans le film « Si Versailles m'était compté » de Sacha Guitry, qui était entre nous tout sauf un homme de gauche, ça a quand même de la gueule et de la voix. Tout ça, c'est la France un peu mythique. Mais le monde de la souffrance ne se limite pas à l'Hexagone. Et l'esclavage est plutôt oublié. Si des hommes comme Condorcet luttent pour sa suppression, la bourgeoisie, appuyée par Bonaparte, obtient son rétablissement et on peut lire dans certains textes le rôle de Joséphine de Beauharnais à cet effet. Alors, pour illustrer cette sinistre situation, les auteurs du livre « En lutte », le carnet de chant dont j'ai déjà parlé, eh bien, ont sélectionné Gordon Moses, un standard de jazz negro spiritual dans l'interprétation, là c'est l'interprétation que nous donnons, de Paul Robeson.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Pressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell all Pharaoh to let my people go. Thus spake the Lord upon Moses, said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go down.
Pendant ce temps, en Europe, la révolte gronde. En Italie, Giuseppe Verdi écrit l'un des plus beaux chants qui plonge dans le passé et garde une actualité étonnante. Via Vapanchero, le chant des esclaves, le cœur des esclaves. Rappelons-nous qu'il fut chanté face à Berlusconi à la Scala de Milan en 2011. Les Italiens ont voté pire encore que Berlusconi en 2022, mais le chant, lui, est toujours là. Nous l'écoutons à la Scala de Milan en 1987, sous la direction de Riccardo Muti, une belle émotion.
Thank you.
Alors, j'ai mentionné précédemment le 19e siècle. Et en France, que serait-il ce 19e siècle sans la Commune de Paris ? Alors, nous l'aimons bien, cette Commune de Paris, dans Au fil des pages, en raison notamment du nom de notre groupe, le groupe Commune de Paris, au sein de la Fédération anarchiste. Entre nous, d'ailleurs, venez nous rejoindre, on a beaucoup d'activités. Mais il y a quantité de chants symboles de la Commune. Nous retiendrons celui écrit par Jean-Baptiste Clément, quelques années avant la Commune et postérieurement dédicacé à Louise, mais pas Louise Michel, une jeune infirmière sur la barricade de la rue de la Fontaine au Roi pendant la Semaine sanglante. Vous relirez Lisa Garay à cet effet. Et peut-être que si vous allez sur le carrefour de la Fontaine au Roi, où s'est tenue cette dernière barricade, l'une des dernières barricades de Paris, eh bien, vous pourrez voir une statue, une grisette, qui peut ressembler étrangement peut-être à Louise. Nous ne savons pas, nous n'avons que son prénom. Voilà, elle passera dans la postérité avec simplement Louise. Nous passons régulièrement la Semaine sanglante du même Jean-Baptiste Clément, alors on change et nous écoutons Cora Vauquer dans Le temps des cerises.
Nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Il n'y aurait de mouvement social que sur Paris ? Nos amis lyonnais s'insurgeraient légitimement. N'oublions pas cette révolte des Canuts. celles de 1831, de 1834, de 1848. Ils ont de la suite dans les idées, ces ouvriers lyonnais. Alors une célèbre chanson, avec des paroles d'Aristide Bruand, interprétée par l'oublié Lénie Escudero, Les Canuts.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau, rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau, rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus.
La sensibilité pacifiste est une constante dans le mouvement ouvrier. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans nos émissions, et notamment début janvier 2023 avec Victor Cachard pour ses deux livres consacrés au sabotage et celui de Guillaume d'Avranches, dont j'ai encore parlé il n'y a pas très longtemps, « Trop jeune pour mourir » chez Libertalia. Montéus, lui, va écrire « La grève des mères, à bas la guerre ». Écoutons Laurent Audemars.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages qui renient le Dieu fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères aux bourreaux. Crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la somme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève
Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi d'éternels crucifiés? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
Une autre chanson pacifiste, un appel à la solidarité qui n'est pas sans faire écho à celui des femmes de Montmartre du 18 mars 1871 face aux soldats de Versailles qui viennent prendre les canons achetés par les Parisiens. Vous rappelez sans doute de ces femmes qui disaient « Vous ne pouvez pas tirer sur vos frères, vous ne pouvez pas tirer sur les enfants ». Eh bien là, il faut montrer la solidarité avec les vignerons du Languedoc. Nous sommes en 1907. Et ceux du 17e régiment, les braves Piou-Piou, eh bien, vont mettre crosse en l'air. Alors évidemment, ils seront réprimés et ils en baveront très durement dans les bagnes de Biribi et autres horreurs de la République. Gloire au 17e, interprété par Rosalie Dubois.
J'ai mettait votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est neutre, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats,
thank you.
Passons maintenant à un hommage aux grandes luttes syndicales menées par des femmes en Bretagne entre 1905 et 1924. Le chant des sardinières à Douarnenez, une lutte de femmes. La chanson a été écrite très récemment, enfin en 2021, et elle s'appelle « Le chant des sardinières, c'est la grève des peines sardines ».
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire.
Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire.
Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaire, et de leur victoire, les femmes sont fières.
Dans la ville rouge, on est solidaire, et de leur victoire, les femmes sont fières.
Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Quelques années après, c'est une autre horreur. La guerre de 1914-1918. Maudite soit la guerre, comme il est écrit sur le monument aux morts de Jean Sioux, dans la Creuse. Eh oui, l'horreur de ce massacre de millions de personnes. Écoutons Mouloudji dans la chanson de Craon.
« quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Caraon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres purotins. Tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Et comme si un conflit n'avait pas suffi, la Seconde Guerre mondiale éclate. Je crois que là, on est aux alentours de 60 millions de morts. Il en naîtra plusieurs chansons, dont Bella Ciao, dont j'ai parlé en début d'émission. Écoutons Tosca chanter Bella Ciao.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi pari mazza, ye shabe manda, ye kimi ge, ai adam ha, ya ame baham, ya ame tana, ma ke bidarim ta fara. Kache in ghiando, tu ki abune, kushe ye kashme malo te testne ye pa.
La 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 Un grande applauso a Tosca! Oltre alla nostra band, con lei hanno suonato Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello al pandero quadrato, giusto? Corretto? Perfetto. Con Tosca, siamo musicisti, ci vediamo più tardi, grazie mille. Tosca!
E oui, Bella Ciao, interprété par Tosca, une belle émotion. Et aussi le chant des partisans. Au cœur de la nuit de l'occupation, lorsque les traîtres pullulaient et que la liberté était défendue par bien peu de gens. Ce chant des partisans, pourrait être celui des résistants du monde entier. Une jeune femme l'interprète, Camélia Giordana, à la fête de la liberté au Bataclan. Écoutons-la.
Mmh.
Qu'avons-nous compris après cette guerre de 60 millions de morts? La fraternité des peuples peut-elle devenir réalité? Non, les guerres continuent manifestement. La guerre d'Algérie, avec son lot de tortures, de massacres, et ses soldats dans un combat qui ne peut correspondre aux valeurs de justice, de liberté, de fraternité. Boris Vian va écrire une chanson interdite et célébrissime, Le Déserteur. Il changera les derniers mots, lui donnant une force étonnante. En effet, dans la version initiale, il était prévu d'écrire et de chanter, donc, le déserteur était armé et qu'il savait tirer. Or là, justement, il rappelle qu'il n'aura pas d'armes et donc que les militaires, que les flics pourront tirer. Le déserteur interprété par l'auteur Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Dans les années 70, nous connaîtrons la guerre du Vietnam. Et John Baez interprète Saigon Bride.
Thank you. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men will it take to build a dike that will not break? How many children before we make the waves stand still? Oh, miracles come high today. We have the wherewithal to pay. It takes them all, you know, to places they would never go alone. It gives them useful trade. The lucky boys are even paid. Men die to build their pharaoh's tombs, and still the teeming.
Alors, bien sûr, il en est d'autres de ces chants, et nous en passons périodiquement dans notre émission. Mais l'intérêt du livre « En lutte », carnet de chants, réside sans doute dans les introductions pour chacune de ces chansons. Et je vous invite vraiment à découvrir ce livre, publié, je vous rappelle, en 2022, aux éditions du Détour. Mais je ne peux pas résister tout de même au plaisir, parce que vous êtes sur Radio Libertaire, de vous faire écouter le triomphe de l'anarchie par les quatre barbus.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur.
Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté ne devient pas de la viande à caserne. Je ne conscris, il vaut mieux déserter. Debout, debout, compagnon de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Tous les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, foyeulés d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié.
Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Alors, après cette série de chansons, les unes connues, les autres un peu moins, passons à au moins un commentaire de livre. Nous verrons si nous aurons le temps d'en présenter un autre. Celui que je vous présenterai, c'est « L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires » d'un dénommé George Woodcock, publié aux éditions Lux, une nouvelle édition en 2022. Alors, les éditions Lux sont implantées au Canada et plus particulièrement au Québec, et elles se sont faites une spécialité de publier des œuvres portant sur l'idéal de liberté. J'ai déjà eu l'occasion de présenter La liberté ou rien, c'est-à-dire un recueil de textes d'Emma Goldman. Je l'ai présenté en janvier 2022. Dans la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Et puis on l'avait présenté d'ailleurs aussi dans l'émission Au fil des pages. Plus récemment, et toujours sur le site du Monde Libertaire, j'ai fait un commentaire du livre Le Manifeste de l'Anarchie d'Anselme Belgarigue en décembre 2022. Autrement dit, nos amis des éditions Lux ont vraiment un souci de faire connaître les textes, d'avoir vraiment une réelle réflexion, de porter à la connaissance des lecteurs des classiques. Et là, eh bien justement, c'est la réédition d'un classique, celui de George Woodcock, dont je viens de donner le titre, « L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires » chez Lux. George Woodcock est un personnage étonnant. Journaliste, poète, éditeur, historien, ses ouvrages ont souvent été salués par plusieurs prix, dont celui j'aime beaucoup, l'ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Orwell à sa guise, qui a été publié donc chez Lux, et qui est un livre de référence pour lire Orwell. L'analyse de ce livre, je l'avais fait paraître sur le blog du groupe Commune de Paris. L'intérêt, c'est tout simplement de lire Orwell, de lire la biographie d'Orwell et de reprendre après l'ensemble de ses livres et de comprendre comment le personnage et sa pensée s'est construite. Ça, c'est pour Orwell. On aime bien Orwell dans Au fil des pages. Voilà, c'est pour ça que j'en reparle une fois de plus. Et alors, la première édition de l'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires, date des années 60. Et Woodcock considérait que la fin de l'anarchisme se situait en 1939 avec la chute de Barcelone. Plus tard, il reprit son analyse et si le mouvement anarchiste perdait indéniablement son caractère de masse, l'idée était toujours vivante, pour reprendre la formule de Victor Hugo concernant la Commune de Paris. Et pour lui, pour Woodcock, je cite, « Cette affirmation de l'interdépendance fondamentale de la liberté, de la réalisation de soi et de la solidarité constitue la vraie leçon de l'anarchisme. Dans cette première édition, poursuit-il, l'anarchisme est réapparu sous de nouvelles formes, adaptées à un monde qui se transforme. En effet, par exemple, la prolifération du A cerclé dans le monde, qui a pour origine une expérience tentée par un groupe en 1964, traduit la fraternité anarchiste et personne ne peut considérer que cette idée est moribonde. Elle mute, elle s'adapte, elle intègre d'autres luttes en influençant des contre-cultures. Et s'appuyant sur les faits de son vivant, évidemment, Woodcock mentionne mai 68, des manifestations aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et on pourrait dire aussi que aujourd'hui, l'idée gagne des classes sociales qui ne sont pas uniquement ouvrières et des régions où elle était inconnue. Des scientifiques, des historiens prennent au sérieux ce mouvement. Et il y a débat autour des termes anarchistes. Autrement dit, là où l'anarchiste était considéré comme étant le folklore un peu, aujourd'hui, on discute sérieusement et nos idées participent à la construction de réflexion. Dans ce livre, qui s'arrête en 1986, le lecteur retrouvera en première partie les fondamentaux théoriques de l'idée et les principaux acteurs, Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkine, Tolstoï, Godwin, un peu inconnu, un peu oublié, avec une analyse comparative des conceptions de chacun. La seconde partie reprend la présence et l'action des anarchistes dans le monde, de la France à la Russie, des États-Unis à l'Espagne. L'ouvrage comporte plus de 500 pages. Et malheureusement, le lecteur un peu averti pourrait regretter des omissions, des allusions. Mais franchement, de vous à moi, comment synthétiser la richesse d'un tel mouvement dans un ouvrage, même de 500 pages? C'est pourquoi Woodcock nous invite à la découverte d'une riche bibliographie avec justement des ouvrages édités en France, mais des ouvrages aussi édités dans les pays anglo-saxons. Et puis, surtout, il nous propose des pistes de réflexion avec des auteurs comme Bookchin, Goodman, des idées à réactualiser. Mais la souplesse intellectuelle de l'anarchisme en fait une idée toujours moderne. Et j'aime la conclusion de l'ouvrage. Woodcock cite un poète libertaire, Herbert Read, je cite, « De mon étude de l'histoire de la culture, je conclus que la société idéale est un point situé sur un horizon qui ne cesse de reculer. Nous ne cessons de nous en approcher, mais nous ne pouvons jamais l'atteindre. Il nous faut cependant nous engager avec passion dans les luttes immédiates. » Je crois que nous avons du travail. Robert Woodcock, L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires, aux éditions Luxe en 2022. Pour terminer notre présentation, nous allons parler maintenant d'un petit ouvrage que nous livrent les éditions Le Bord de l'eau et qui reprend la surveillance que subit Victor Hugo toute sa vie. Il faut arrêter Hugo à tout prix, c'est le titre de l'ouvrage. Mais il aborde plus globalement la surveillance policière de l'opposition, ce qui n'a guère changé, hein, faut le dire. La police au service de l'État, le plus totalitaire comme le pseudo-démocratique. Les mêmes agents sont là avant et après. Ils n'ont pas changé. Le Premier Empire et la Restauration, le Second Empire et la Troisième République, le régime de Vichy et la Quatrième République, comme l'a si bien montré Maurice Rachfus dans La Police de Vichy, que nous avons ouvrage que nous avons présenté dans la chronique des idées et des luttes du 29 août 2022 sur le site du Monde Libertaire et dans notre émission du 14 septembre 2022. Jean-Pierre Bédéi, que j'ai connu dans d'autres journaux, revisite la vie d'Hugo en s'appuyant sur les rapports de police, ceux des indiques. Comme le dénonce Hugo, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police est partout, la justice nulle part. Et quand la justice est aux ordres de l'exécutif, Montesquieu peut se retourner dans sa tombe. Je relève précisément le rôle des indiques, qui sévissent y compris au sein de son entourage. On sait où il va, qui il voit, ce qu'il mange, ce qu'il boit, et c'est impressionnant de médiocrité de voir que des hommes et des femmes qui vivent d'Hugo, qui vivent de la notoriété d'Hugo, sont prêts à travailler avec la police, avec le pouvoir. Il faut savoir qu'il y en aura aussi au sein des proscrits de 1848, 2851, c'est ce que nous sommes en train de décrire, et plus tard, 2871. L'affaire, plus précisément, là, Jean-Pierre Bédéi fait débuter son livre en 1851, lors du coup d'État de Napoléon, Napoléon le Petit, comme le qualifiait Victor Hugo. Le peuple, écrasé par la répression de juin 48, ne se mobilise pas pour une république qui ne le représente pas. Et vous lirez dans ces pages des appels à la mobilisation. Hugo est partout, comme ses amis. Les barricades sont enlevées par la troupe. Les opposants sont emprisonnés ou pourchassés. Où est Hugo ? Grâce à des amis, il se cache, change de lieu d'hébergement tous les soirs, mais c'est de plus en plus dangereux. Et grâce à sa maîtresse, Juliette Drouet, il se réfugie en Belgique. Cela ne dure qu'un temps. Le gouvernement belge subit la pression de son homologue français. Des menaces de censure et d'expulsion sont trop fortes. Pourquoi Hugo ? Eh bien, parce que Napoléon III le considère comme un opposant majeur, renommé, estimé, redoutable orateur, dénonçant les atteintes aux libertés. Écoutons ses propos sur la censure. La censure, cette chienne au front bas qui suit tous les régimes, satanée Anastasie, comme on la surnommait. Alors il parle pour Jersey. Il publie son pamphlet, Napoléon le Petit, un immense succès malgré les contrôles aux frontières pour interdire l'entrée en France des exemplaires. Vous lirez aussi les pages sur l'ingéniosité des passeurs. Le contrôle est obsédant et obsédé. Son courrier est ouvert. Il faut utiliser des subterfuges pour échanger avec le continent. En 1855, il rejoint Guernesey et s'installe à Hauteville House, que nous pouvons encore visiter aujourd'hui. Et puis Sedan, la chute de l'Empire. Le 5 octobre 1870, Victor Hugo est de retour à Paris, un triomphe. Mais il est surveillé, car dangereux pour ces monarchistes, ces républicains conservateurs qui assassineront le peuple de Paris en mai 1871. Vous revivrez les débuts incertains de la Troisième République. Vous savez, on a soi-disant des républicains, mais en fait, on a une majorité monarchiste. Et Hugo est classé à l'extrême gauche. À l'extrême gauche. Il sera encore sous surveillance pour son soutien postérieur, faut quand même le dire, aux communards. En 1876, il est élu sénateur. Il s'éteint le 22 mai 1885, mais ce n'est pas fini avec la police, qui contrôle le gigantesque défilé derrière le cercueil. Pas de drapeau, pas de manifestation d'opinion, pas de banderole, même des francs-maçons. Alors les anarchistes, vous ne l'imaginez même pas. Songeons que celui qui mena les combats pour les valeurs de l'humanisme républicain eut ses propos dans un livre que je vous recommande, « Chose vue ». Je cite « Choisissez d'être des hommes de police ou des hommes de pensée, d'être avec les cloportes dans les caves ou avec les aigles dans les cieux. » Jean-Pierre Bédéi, il faut arrêter Hugo à tout prix, La surveillance policière de l'opposition, aux éditions Le Bord de l'eau, 2022. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre attention et votre fidélité, et bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et à bientôt, et au plaisir de partager.
Jatte, avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles droite sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu